mondiale.
Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. L'emploi est là. Priorité de François Hollande. Il l'a répété aujourd'hui et pourtant la fameuse courbe du chômage ne s'inverse pas. Plus de 10,2% de la population active française n'a aujourd'hui pas d'emploi. Et depuis quelques jours, un coupable semble tout désigner, le SMIC, le fameux salaire minimum. Plusieurs personnalités se sont prononcées pour sa suppression, ou en tout cas pour sa modification, sa modulation. L'ancien directeur de l'OMC, Pascal Lamy, favorable, je cite, à de petits boulots, payés moins. Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, pour l'instauration à titre temporaire d'un salaire transitoire, inférieur au SMIC là aussi. Et puis trois économistes dans un livre, Changer de modèle, paru aux éditions Odile Jacob il y a quelques jours. Et nous recevons ce soir l'un des trois co-auteurs, Gilles Berset, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes également professeur à l'université d'Aix-Marseille. Des personnalités donc qui veulent débattre du principe du salaire minimum, des personnalités très vite critiquées, attaquées. Il a suffi de quelques heures par des syndicats, forces ouvrières, par des politiques, le patron des sénateurs écologistes Jean-Vincent Placé, mais aussi par des économistes comme Philippe Léger, avec nous en studio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'université de Picardie, membre de l'Association française d'économie politique et de l'association Les économistes atterrés, on va y revenir. Vous avez contribué en 2012 à un ouvrage qui sonne presque comme une réponse à celui de Gilles Berset, puisqu'il s'appelle « Changer d'économie » aux éditions Les liens qui libèrent. Alors, je voudrais commencer avec vous, Gilles Berset. Je le rappelle, vous êtes co-auteur de ce livre « Changer de modèle » sorti il y a quelques jours et vous avez été reçu, je crois que c'était mardi par François Hollande, le chef de l'État, à l'Élysée. Qu'est-ce que vous lui avez dit à propos du SMIC ?
Écoutez, François Hollande voulait discuter avec nous de notre ouvrage. Donc tous les aspects de cet ouvrage ont été longuement discutés.
La question du SMIC... Oui, parce que dans votre ouvrage, c'est une question parmi beaucoup d'autres.
Voilà, la question du SMIC est très très importante, mais occupe 4 pages sur les 250 pages de l'ouvrage, donc ça fait partie de la discussion, mais ça n'a été qu'une petite partie, bien évidemment.
Et alors, qu'est-ce que vous lui avez dit à propos du SMIC ? Quelles sont vos propositions ? Suppression ? Modification plutôt ?
Le discours que nous lui avons tenu est celui qui est dans cet ouvrage. D'abord, que le SMIC est un moyen très très faible de réduire la pauvreté. La pauvreté s'explique principalement par d'autres facteurs, le nombre d'heures travaillées dans l'année, les charges de famille. Que le SMIC est un salaire minimum très élevé en France par rapport au salaire minimum qu'on observe dans d'autres pays. On fait partie des pays où le salaire minimum est le plus élevé. Que le SMIC a un SMIC élevé a un effet préjudiciable sur l'emploi des non-qualifiés. Gauche et droite s'accordent à considérer cela. La preuve en étant d'ailleurs que pour contrebalancer, pour neutraliser en partie ces effets défavorables à l'emploi, eh bien on déploie des allègements de charges ciblés sur les bas salaires qui atteignent aujourd'hui le montant faramineux de 22 milliards. 22 milliards, ça va encore être amplifié dans le cadre du pacte de responsabilité. Et ce montant n'a pas été remis en cause au gré des alternances, voire s'est amplifié continuellement depuis 1993. Donc, il y a un accord de toute la classe politique sur ce plan-là.
Donc, vous nous dites, c'est que le SMIC a beaucoup de défauts, mais alors comment il faut le changer ? Est-ce que vous n'êtes pas pour la suppression, je crois ?
Non. Et nous avons trois objectifs très, très clairs dans cet ouvrage. Les trois objectifs, c'est la croissance et l'emploi, d'abord. La lutte la plus efficace contre la pauvreté. Et puis, la lutte la plus efficace pour la mobilité sociale. Et dans ce contexte, il nous semble très important d'envisager un gel du SMIC pendant un certain nombre d'années, une modification de sa règle de revalorisation pour qu'elle soit moins automatique. Et puis, tout l'argent qu'on pourra économiser de cette façon-là sur les allègements de charges sociales pourra être mobilisé complètement, donc à coût nul pour les administrations publiques, sans coût supplémentaire, pour être mobilisé sur des dispositifs très efficaces pour lutter contre la pauvreté, parce que c'est des dispositifs familiarisés. Et je pense en particulier au revenu, au RSA, bien évidemment, qui est très efficace
pour lutter. Au revenu de solidarité active.
Alors, voilà.
Philippe Léger, je le disais tout à l'heure, on va peut-être commencer par ça, vous êtes membre de l'association des économistes atterrés. Est-ce que déjà vous pouvez du coup vous situer ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette association ?
Oui, c'est une association qui existe depuis 2010
et qui rassemble des économistes issus d'horizons théoriques, méthodologiques, etc. assez divers, mais qui faisait un même constat en 2010, à savoir qu'on était en train d'utiliser comme alibi la crise pour renforcer des politiques qui avaient justement causé cette crise. Et c'est cette situation ubuesque qui nous a atterrés. On a donc créé cette association afin d'intervenir dans le débat public et de publier ensemble un certain nombre de notes et d'ouvrages.
Et vous avez l'impression que c'est ce qu'il se passe toujours aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Ça a été dit à l'instant, par exemple, sur les baisses de cotisations sociales. C'est une politique, c'est la politique qui est privilégiée depuis le début des années 90 et le gouvernement actuel entend amplifier cette politique très fortement.
C'est donc ce que vous dites, c'est qu'on a perpétuellement baissé les cotisations sociales et que ça n'a pas été efficace, donc ça devrait être remis en cause ?
Oui, je pense que c'est une politique très coûteuse. Un emploi créé par ce biais-là coûte à peu près 75 000 euros aux finances publiques, ce qui est considérable. Et je pense qu'il faut effectivement s'y prendre autrement.
Et alors, quelle est votre réaction face à ce qu'a dit Gilbert Sept à François Hollande ? Est-ce que ce sont des solutions que vous préconisez ?
Non, j'ai un désaccord sur cette question, donc on va pouvoir effectivement débattre. Donc ce qui est proposé, à savoir le gel partiel du SMIC sur plusieurs années, puis une réforme révisant la règle de revalorisation automatique, également une régionalisation du SMIC et un éclatement donc par génération, par région, par branche. Je pense que ce serait en partie revenir à certains défauts du SMIG, le dispositif précédent, celui qui avait été créé en 1950. Le SMIG suivait l'évolution de l'inflation, mais comme à l'époque, en moyenne, les salaires variaient en intégrant une large part des gains de productivité, le SMIC décrochait de l'évolution moyenne des salaires. On y a remédié en créant le SMIC en 1970. Je pense que geler le SMIC et revoir cette règle de revalorisation automatique conduirait à un accroissement des inégalités salariales. Je pense aussi que ce serait en priorité s'attaquer aux femmes que de prendre ce type de mesure dans le sens...
Parce qu'il y a quasiment 2 millions de SMICards, comme on dit en France. Les femmes représentent quel pourcentage ?
Elles sont deux fois plus souvent au SMIC que les hommes.
D'accord.
Donc c'est une part très importante, en particulier dans les services, la distribution, etc. Après, il y a la question de savoir si le SMIC est trop élevé. C'est les citations que vous donniez au début.
Alors, juste pour nos auditeurs, je le dis, actuellement, le SMIC, c'est 9,53 euros brut de l'heure, soit un salaire brut mensuel de 1445 euros pour un salarié aux 35 heures. Il y a donc un petit peu moins de 2 millions de SMICards en France. Allez-y, je vous en prie.
Est-ce qu'on peut vivre avec 1133 euros nets par mois ? Est-ce que c'est trop ? C'est évidemment à la société et pas aux économistes de répondre à cette question. Mais je pense que si...
Mais est-ce que vous comprenez qu'on pose la question du SMIC ?
De toute façon, toute question est légitime pourvu qu'il y ait un débat
organisé. Ce cadre...
Mais je ne suis pas le seul à avoir été choqué, assez ahurissant d'entendre M. Lamy proposer de revenir sur le niveau du SMIC, à savoir proposer des boulots payés moins, alors qu'il semble avoir oublié que lorsqu'il gagnait à la tête de l'OMC un salaire de 316 000 euros, il demandait une augmentation de 32% qui lui a été fort heureusement refusée. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le débat démocratique, ce que j'entends autour de moi, c'est beaucoup d'indignation par rapport à ce type de proposition. Maintenant, en tant qu'économiste, je pense que ce serait contre-productif. C'est ce que j'essayais de vous expliquer. À la fois parce que ça va augmenter des inégalités salariales, mais aussi parce que j'ai une analyse différente économique du chômage qui a été exposé tout à l'heure. En particulier, je pense que le problème fondamental, c'est qu'il y a globalement un manque d'emploi, chômage de masse depuis les années 70, situation actuelle de crise renforcée par l'austérité budgétaire, et que dans une telle situation, que font les employeurs ? Ils reçoivent beaucoup de CV et ils ont des critères de sélection, ils tendent à privilégier selon des critères d'âge ou de diplôme. Donc c'est pas un problème qui est spécifique aux jeunes.
Le combat est ailleurs. Voilà. Mais d'ailleurs, Gilbert Sept, est-ce que vous pensez que c'est le SMIC, c'est vrai. Est-ce que votre réponse, vous êtes sûr qu'elle va fonctionner ou pas? Ou vous vous dites, il faut qu'on tente d'autres mécanismes parce que voilà, ça fait 30 ans que le chômage augmente, qu'on est à un seuil qui a quasiment jamais été atteint. Est-ce que vous y croyez vraiment ou vous vous dites, il faut tout tenter, la fin d'un tabou?
Non, deux choses. Hein. D'abord, l'idée de geler le SMIC et de revoir sa règle de revalorisation pour économiser sur des allègements de charges qui seraient reversés dans des dispositifs très ciblés sur les plus pauvres, ça permettrait d'être beaucoup plus efficace dans la lutte contre la pauvreté, en particulier pour les parents célibataires, qui sont généralement des femmes avec la charge d'enfants. Donc sur ce plan-là, pour réduire la pauvreté des familles, pour réduire la pauvreté des enfants, on irait à coup nul pour les administrations publiques vers beaucoup plus d'efficacité. Il y aurait moins de pauvres qu'il y en a au jour d'aujourd'hui en France. Alors ça, c'est une première chose. Deuxième chose, dans le débat, a été évoqué le SMIC jeune, régionalisation. Nous, dans notre ouvrage, avec Philippe Aguillon et Lee Cohen, nous disons, il ne faut pas s'interdire de réfléchir, de poser la question. C'est aux décideurs politiques, évidemment, de décider. Il est élu, il est légitime en tant que décideur. Nous, en tant qu'économistes, on est légitime à soulever des problèmes, à porter des éléments de réflexion.
Et comment ça a été perçu, d'ailleurs, cette rencontre, du côté du président, du chef de l'État? Il vous a écouté?
Il nous a absolument, absolument écouté et il a posé des questions dans ce domaine comme sur les autres. Et ce que nous disons, c'est, il existe d'autres pays dans lesquels existe un SMIC jeune, un SMIC plus bas pour les jeunes, pour faciliter l'insertion des jeunes.
Vous pensez par exemple à la Hollande?
Je pense par exemple aux Pays-Bas, je pense par exemple au Royaume-Uni.
Mais au Royaume-Uni, le chômage des jeunes, sauf erreur, est tout de même élevé.
Moi, je vois qu'au Royaume-Uni, le taux d'emploi des jeunes, taux d'emploi, parlons pas de taux de chômage, c'est le pourcentage des jeunes de moins de 25 ans qui sont en emploi. Le taux d'emploi des jeunes est de 50%. Aux Pays-Bas, le taux d'emploi des jeunes est 65%. En France, il est de 28%. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'existence d'un SMIC plus bas? Je n'en sais rien. C'est quelque chose qui mérite d'être étudié. Vous voyez?
Mais alors, qui mérite d'être étudié ou qui mérite d'être tenté? Parce que les conséquences sont quand même pas...
Ah non, ce que nous disons dans cet ouvrage, c'est que ces questions-là sont trop graves pour prendre des décisions sans études préalables, hâtives. Donc, il faut voir la réalité de ces pays. Il faut voir si les écarts de taux de chômage des jeunes peuvent être en partie lié à l'existence d'un SMIC jeune. Je suis incapable de le dire comme ça. Personne n'est capable de le dire comme ça à brûle pour point. Il faut avoir aucun a priori, aucune position idéologique. Et se poser cette question-là. Si on peut,
c'est oser de cette poser de nouvelles questions,
voilà,
oser tenter de nouvelles pistes.
Exactement. Si
en
on peut,
toute humilité.
Si on peut par cette piste réduire, si c'était possible, on n'en sait rien. Si c'est possible de réduire la situation de les difficultés d'insertion des jeunes, ça serait une bonne chose. Du côté de la régionalisation, j'insiste sur ce plan-là. Les niveaux des prix sont très différents dans les régions en France. C'est pas pareil de vivre avec un SMIC à Paris ou dans la Creuse. Partant de ce constat-là, on n'assure pas par le SMIC le même niveau de vie pour les salariés.
Donc vous dites pragmatisme là pour le
pragmatisme.
Coup, c'est ça ?
Donc posons cette question-là, mettons-la en débat.
Philippe Léger, qu'est-ce que vous en pensez sur justement le SMIC jeune et la régionalisation ? Ce sont de mauvaises mesures ?
Oui, je pense que ce sont de mauvaises mesures. Avant tout, il me semble qu'il y a une contradiction à dire d'un côté qu'il faut s'attaquer, comme vous le dites souvent, aux causes profondes, aux causes premières des inégalités, de la pauvreté, et qu'en France, on a tendance à mettre un pansement sur une jambe de bois, et à dire d'un autre côté qu'il faut réduire le SMIC en compensant, notamment par un accroissement du RSA. Les causes profondes des inégalités, c'est la répartition telle qu'elle est issue de la production, et remettre en cause le fonctionnement actuel du SMIC, ça serait se priver quasiment du seul outil qu'on a d'influer sur cette répartition issue de la production, sachant que les outils dont on dispose après, sur la redistribution par les prestations sociales, etc., sont justement aujourd'hui remis en cause. Donc il ne resterait plus grand-chose, et je pense que les minima sociaux n'ont pas vocation à compléter des salaires insuffisants. L'État n'est pas là pour se substituer à l'employeur et payer une part du salaire à la place de l'employeur, que ce soit du salaire différé sous forme de cotisation sociale ou du salaire direct.
Et sur la régionalisation, est-ce que cette envie de pragmatisme, vous la trouvez légitime ?
Non, je pense que c'est une protection que d'avoir un système national pour toutes les générations et valable pour toutes les branches, et que c'est ce qui permet d'empêcher en France une évolution des salaires les plus modestes vers le bas. On est aujourd'hui en Europe dans une situation dans laquelle le principal risque est celui de la déflation. Le FMI, Madame Lagarde le reconnaît, même le dirigeant très orthodoxe de la Bundesbank le reconnaît, et donc je pense que ce serait la dernière chose à faire dans la situation actuelle.
Et
je voudrais juste revenir sur l'exemple de l'Angleterre, où effectivement il y a un dispositif qui permet de payer en dessous du salaire minimum les jeunes de moins de 22 ans, et le nombre de chômeurs est particulièrement élevé chez les jeunes, hein, par rapport à la France. Alors on peut effectivement regarder le taux d'emploi
et pas le taux de chômage.
C'est ce qui a été dit, mais je dois dire là que je suis en désaccord avec la proposition qui figure dans votre ouvrage. Pour augmenter le taux d'emploi en France, vous proposez de développer des incitations pour que les étudiants, puisque le faible taux d'emploi en France est dû au fait que les études supérieures se sont démocratisées. Je pense que c'est quelque chose de bien, et vous proposez d'inciter les étudiants à prendre des petits boulots à mi-temps ou moins, en pensant, c'est ce que vous dites, que ça n'influerait pas négativement sur leurs études. Bon, moi, en tant qu'enseignant, je constate le contraire, et j'y suis opposé.
Mais vous êtes enseignant aussi.
Oui, je suis enseignant aussi. Alors, c'est effectivement une proposition qu'on fait, parce que beaucoup de jeunes diplômés sont complètement désemparés quand ils arrivent après leur diplôme sur le marché du travail, en constatant que leur diplôme n'est pas forcément complètement adapté aux attentes de l'économie et du fonctionnement de l'économie. C'est la raison pour laquelle, nous, on dit, ça serait peut-être pas mal de les inciter à mettre un pied sur le marché du travail, conjointement à la poursuite de leurs études, et mettre un pied sur le marché du travail en horaire réduit, c'est-à-dire d'une façon non préjudiciable, évidemment, pour le succès de leurs études, puisque en dessous d'un certain nombre d'heures, ça n'a pas de conséquences négatives sur le succès des études. Donc c'est un point qui nous paraît important, simplement pour éviter, en quelque sorte, ce passage-là d'un univers à un autre, qui est complètement subi. Il y a un moment où on étudie, et puis un moment où on découvrirait le monde du travail avec un choc, une confrontation entre la réalité d'un diplôme et la réalité du monde économique.
Ça pourrait aussi passer par une professionnalisation de certaines études, mais c'est
un autre débat.
Mais Gilbert Sette, ma question, c'est, vous voulez lancer des pistes, donc on l'a bien compris, pas forcément les mettre en œuvre avant de les avoir étudiées, et pourtant, le gouvernement qui a fait de l'emploi sa priorité numéro un n'a pas l'air vraiment séduit par ses propositions sur le SMIC, pas seulement les vôtres, hein, y compris les propositions de Pierre Gattaz ou de Pascal Lamy. Donc je cite par exemple Najat Vallaud-Belkacem, actuelle ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et du Sport, qui y voit une provocation inutile. Alors comment vous expliquez ce manque d'audace peut-être du politique ?
Nous l'expliquons de façon simple, en disant qu'il y a des marqueurs dans notre pays, et ces marqueurs sont régulièrement brandis d'une façon simpliste, sans aucune analyse économique, et même en refusant complètement l'analyse économique. Donc on parle de plusieurs de ces marqueurs dans le cadre de notre ouvrage, Philippe Aguillon, Élie Cohen et moi. Le SMIC en est un. Avant toute étude sur l'impact du SMIC sur la pauvreté, les politiques les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté, dans l'intérêt des personnes, les politiques les plus efficaces pour faciliter l'insertion des jeunes, on dit halte là, on ne veut pas en parler, on ne touchera pas au SMIC, le SMIC le plus élevé.
Pour vous,
c'est
il faut faire tomber
de bon.
Des barrières pour voir ce que
il
ça
ne
peut
faut
éventuellement
pas s'interdire
avoir comme
le débat, l'analyse économique avant de prendre des positions.
Dernière question, Philippe Léger, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction avec ce qu'on voit aujourd'hui, cette discussion sur la suppression, la modification du SMIC, et ce qui se passe par exemple en Allemagne, qui vient de décider de mettre en place un salaire minimum qui serait plus bas qu'en France, 8,50 au lieu d'un peu plus de 9 en France?
Oui, en mise en place en Allemagne en janvier, et puis augmentation très forte du SMIC en Angleterre. Ça, ce sont de bonnes nouvelles. Je voudrais dire qu'il existe des études divergentes sur le sujet.
Oui, il n'y a pas de vérité économique finalement sur le.
Voilà, il y a différents points de vue étayés par différentes hypothèses. Que l'objectif du SMIC en 1970 était, je cite, la loi assurée aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat et une participation au développement économique de la nation. C'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire que les gains de productivité se sont retrouvés dans le SMIC, et ça, je pense que c'est un acquis social à préserver.
Un progrès. Merci beaucoup. C'est la fin de ce débat. Merci à nos deux invités, Gilbert Berset, co-auteur donc de Changer de modèle aux éditions Odile Jacob. Merci à Philippe Léger qui a notamment contribué aux ouvrages Changer d'économie ou L'Europe maltraitée, aux éditions Les liens qui libèrent. Merci à Florence Ponce, à Victor Rull, à la réalisation. On se retrouve lundi, 70 ans que les femmes ont le droit de vote. Alors existe-t-il un vote féminin? Ce sera à partir de 17h40. Temps universel, tout de suite un nouveau point sur l'actualité.